OK, on s'en va au point de presse. Christian Dubé, Horacio Arruda, on écoute ça.
Il me semble qu'on se voit souvent ces temps-ci, hein? Alors, je suis quand même très content de vous voir et de pouvoir saluer tous les Québécois. Docteur Arruda, j'aimerais peut-être faire le point aujourd'hui sur trois éléments. Premièrement, sur les paniers, sur les paliers, les paliers d'alerte. La santé publique suit quotidiennement, comme vous pouvez imaginer, là, l'évolution de la pandémie. À la lumière des données des derniers jours, la santé publique fait passer la MRC d'Avignon en Gaspésie au jaune. Le reste de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, restent au même code de couleur, c'est-à-dire le code vert. Les autres régions conservent le même code de couleur. Alors ça, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Mais encore une fois, je le répète, ça peut changer vite, mais c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais faire quelques points qui sont, à mon sens, importants sur, et c'est mon deuxième point, sur la question des contacts sociaux. Au-delà des paliers, des zones, des couleurs, etc., il y a vraiment de la contagion, de la contamination communautaire importante. Et ça, je pense qu'il faut que les Québécois le réalisent. Puis, je sais qu'on dit souvent que c'est la principale source de contamination, que c'est très différent de la première vague. Je sais que vous êtes peut-être tanné que je répète ça, mais je pense qu'on doit vraiment freiner cette vague-là, de cette contagion-là, puis on doit la casser. Et moi, ce que je demanderais aux Québécois, on a mis des règles très, très claires pour ce qui est de ce qu'on doit surveiller en termes sanitaires. Je ne les répéterai pas, là, vous le savez, au niveau des mains, la distanciation. Mais ce que j'aimerais, si on veut s'assurer qu'on casse la vague en ce moment, il faut faire attention, puis je vais le répéter, là. Il faut s'assurer qu'on se limite à ce qui est vraiment nécessaire. Puis qu'est-ce qui est nécessaire? C'est d'aller au travail, c'est d'aller à l'école, et je demanderais aux Québécois, s'il vous plaît, d'éviter les contacts sociaux. Parce qu'on doit continuer de laisser aller nos enfants à l'école, puis je demanderais d'éviter les contacts sociaux. Puis donc, à partir de maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous évitiez, puis je le dis dans la mesure du possible, là, on a le choix en ce moment, puis c'est un choix d'équilibre entre un confinement qu'on a connu, sur lequel on ne veut pas retourner, et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. Alors moi, ce que je vous demanderais, c'est d'éviter le plus possible les soupers de famille, les soupers, les rencontres entre amis, les barbecues, les anniversaires, les mariages, les funérailles et toutes les occasions où on multiplie les contacts. Alors aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le débat des chiffres, mais je vous demande juste une chose. S'il vous plaît, dans les prochains jours, évitez les contacts sociaux. Parce que le message que je veux envoyer aujourd'hui, puis encore une fois, je veux être très, très clair, c'est que la contamination actuelle que l'on a, elle vient de nos rassemblements entre familles puis entre amis. Je le sais que je le répète souvent, mais c'est là qu'on se fait mal à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on fasse une différence dans les prochains jours. Parce que je vais être franc, là, je vais être très honnête avec ce que je vois en ce moment. Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je le répète, je pense que si on continue avec les niveaux de contacts sociaux qu'on a en ce moment, on va rentrer dans le mur. Puis au contraire, si on fait des efforts maintenant, ça va faire une différence. Et c'est ça que je demanderais aux Québécois. Ça, c'était mon premier message. Bon, on va essayer de trouver des bonnes nouvelles où on peut en avoir. Il y en a. Encore une fois, j'ai une bonne nouvelle, puis ça n'en prend ces temps-ci des bonnes nouvelles. Alors, pour moi, on a encore fait appel aux Québécois. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai demandé aux Québécois de repasser dans le site de Je contribue, parce qu'on avait besoin, notamment pour le dépistage et pour la question aussi des enquêtes pour aider les équipes de santé publique. Mais c'est quand même, au cours des derniers jours, quand même un petit peu plus que deux jours, on a eu de plus de 4000 personnes qui ont répondu à l'appel. Et ça, c'est significatif. Encore une fois, on voit non seulement l'intérêt pour les Québécois, mais cette compassion-là de venir nous aider à un moment critique. Alors, moi, premièrement, je veux les remercier parce que ça s'est fait excessivement rapidement. Et je sais qu'on est un petit peu plus que 4000, mais je veux être prudent dans les chiffres parce que on a déjà eu des fois des surprises. Là, il y a des gens qu'on doit... il va y avoir en ce moment... Il y a déjà des discussions parce que lorsque les gens s'inscrivent, puis j'inviterais les gens à continuer à s'inscrire parce qu'on en a besoin beaucoup, vous le savez. Quand les gens s'inscrivent, il y a une analyse qui se fait de leurs adresses et leur candidature est envoyée automatiquement dans les bons CIS ou CIUS qui est le plus proche possible de leur adresse. Alors, en ce moment, il y a un travail qui se fait directement par les centres régionaux pour analyser les candidatures. Puis, je vous dirai au cours des prochaines semaines comment ça évolue, mais c'est tellement une bonne nouvelle d'avoir accès à ces gens-là qui nous apportent leurs connaissances. Puis encore une fois, je dis, c'est pas juste des bras, là, c'est des têtes, des gens qui ont des connaissances importantes qui peuvent nous aider et des qualifications professionnelles souvent qui viennent nous aider. C'est plus de 4 000, mais j'inviterais ceux qui ne l'ont pas fait encore de venir parce qu'on en a besoin et on va en avoir besoin dans toutes les régions du Québec. L'autre bonne nouvelle, deux aujourd'hui. L'autre bonne nouvelle pour moi, c'est toute la question des cliniques de dépistage. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté déjà, depuis hier, on a mis un site, sur notre site de Québec.ca, on a mis les temps d'attente de nos cliniques, des centres de dépistage. Si vous allez voir en ce moment, Québec.ca, /test ou délai, là, je ne me souviens pas exactement, vous allez le retrouver facilement sur le site, vous voyez un déroulement de tous les sites de dépistage en temps réel. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à midi et quelques minutes, et ça s'est remis à jour. Alors, les gens peuvent aller voir le site de dépistage, le centre de dépistage, pardon, qui est le plus près de chez eux, et de voir c'est quoi les temps d'attente. Les temps d'attente sont 0, 30 minutes, 30, 60 minutes, etc. Alors, vous pouvez aller voir, puis on s'assure que les sites vont être mis à jour le plus régulièrement. Alors, puis je dirais en terminant, je le sais que c'est pas facile. Puis je le sais que, malheureusement, pour les journalistes qui sont ici ou les Québécois, je vais avoir besoin de revenir vous voir encore avec le docteur Arruda dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on est loin d'avoir fini. Mais je répéterai la demande que je fais aux Québécois, s'il vous plaît, aujourd'hui. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on veut casser la vague, on doit faire un effort pour minimiser nos contacts sociaux. Peu importe dans quelle région vous êtes en ce moment, peu importe le code de couleur, je vous demanderai de faire un effort pour minimiser vos contacts sociaux dans les prochains jours. I'll say a few words in English.
Oui. Valérie Leboeuf est toujours avec moi. Oui, il y avait le ton grave, notre ministre.
Oui, on sent que si on ne fait pas ce que le ministre nous dit, il pourrait y avoir reconfinement. Il faut vraiment...
C'était pas mal clair, ça.
Oui,
c'était
pas
mal clair, là. On doit casser cette vague. Il l'a répété à plusieurs fois et il a dit, si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'on va rentrer dans un confinement pas mal plus exigeant que celui qu'on vit présentement.
Sûrement, oui. Puis là, il demande vraiment de s'assurer de faire ce qui est vraiment nécessaire. Travail, école, éviter les contacts sociaux. Ça veut dire que les soupers, barbecue, le week-end, les amis, même si on disait qu'on peut être six... Malheureusement, je pense que c'est mieux de rester seulement avec notre clan.
Oui, c'est ça. C'est ça, avec notre blonde, notre chum, nos enfants. Puis ça s'arrête là. Alors, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles.
Hein? Ben oui.
Les gens se rapportent, comme on dit.
Ben, 4000 personnes qui ont répondu à l'appel pour notamment le dépistage, enquête de traçage.
Oui, ça, rappelez-vous, là, c'était, il y avait dit, des dentistes, des hygiénistes, des physiothérapeutes,
orthophonistes,
audiologistes, sages-femmes. J'en oublie, évidemment. Là.
Mais il y avait des policiers aussi pour les enquêtes de traçage.
Exact. Les gens qui ont une expérience dans les enquêtes. Bon, donc 4000. Et puis, si le système... Le système a l'air de marcher, c'est-à-dire si vous vous inscrivez, après ça, votre candidature, elle est envoyée à votre CIS ou CIUS le plus près de chez vous.
Et c'est
eux autres qui vont vous contacter pour vous demander de vous rapporter à une clinique de dépistage, par exemple.
Oui, puis la deuxième bonne nouvelle, ben, c'est la clinique de dépistage. Si vous avez besoin de vous y rendre, ben là, vous pouvez connaître les temps d'attente. C'est indiqué, c'est remis à jour. Parce que ça peut décourager les gens de se dire, mon Dieu, je vais aller attendre combien de temps?
Oui.
Quand on le sait d'avance, on peut s'organiser un peu mieux.
Voilà, pour éviter notamment ce qui s'est passé à Longueuil, là, la semaine passée, au centre Jean Béliveau, là, à l'aréna Jean Béliveau, il y a des gens qui ont viré de bord parce que, écoute, ça n'avait pas d'allure, l'attente.
Non.
Ça n'avait pas de bon sens. Bon, bien, très bien. Alors, on va voir à cette heure la suite des choses. Les journalistes ont aiguisé leurs questions et puis ils vont... Il est encore en anglais.
Mais quand on regarde aussi au niveau scolaire, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'entend pas parler de ce qui se passe dans les écoles.
Oui.
Et là, je regardais ça aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est en date du 22 septembre. Mmh. On est le 24 aujourd'hui. Mais il y a quand même des cas positifs dans 427 écoles. Ça augmente, ça continue à augmenter à tous les jours. Le nombre de classes qui sont fermées aussi. On est à 325 classes de fermées en date du 22 septembre, mais il y en avait 52 de moins la veille, le 21.
Ouais.
Donc, ça fait en sorte que des cas confirmés positifs actifs dans les écoles, on est à 565 présentement. Ça
ouais.
comprend autant les membres du personnel que les élèves.
Oui, puis d'ailleurs, une des choses qu'il nous a dit, M. le ministre, c'est qu'il fallait respecter les consignes pour éviter que les élèves soient privés d'école. On s'en va aux questions.
Je veux savoir si vous prévoyez toujours appliquer les autres mesures qui étaient prévues dans les paliers orange. Fermeture de bar, restaurant, gym, avant de passer au rouge.
Voulez-vous répondre, Dr. Arruda?
Tout est possible dans les faits, et c'est basé sur l'analyse qu'on fait de façon épidémiologique, la situation dans chacun des territoires. Parce que ici, les bars ne sont pas un phénomène amplificateur. À ce moment-là, les fermer ne seraient pas nécessairement utiles. Comme le disait le ministre, le problème actuellement, c'est la transmission communautaire partout, qui, elle, va venir pénétrer dans nos écoles, qui va venir pénétrer dans nos résidences pour personnes âgées, parce que les gens vivent dans la communauté aussi. Et c'est ça à quoi on doit s'adresser.
Donc, juste pour préciser, je comprends qu'on pourrait passer au rouge sans nécessairement appliquer ces mesures-là.
Exactement. Okay. On l'a toujours dit, c'est un guide, c'est un cadre de référence, mais on doit l'adapter à la situation qui est faite et l'analyse qui est faite dans les territoires.
Monsieur Arruda, je voudrais savoir, le sport interscolaire, c'est-à-dire des marches entre les écoles, est-ce que c'est la santé publique qui a recommandé qu'il puisse pas y avoir de marches entre les écoles s'il y a un cas dans une école, même si pourtant ce ne sont pas dans les équipes nécessairement, ça peut être deux élèves de secondaire 2, l'équipe midget 3 de secondaire 5 qui joue, il n'y a aucun contact. Est-ce que c'est la santé publique qui a recommandé?
Bien, les guides sont faits en collaboration entre la santé publique et le milieu scolaire. Dans cette situation-ci, à mon information, là, puis je vais faire des vérifications pour éclaircir la situation, s'il y a un cas dans une école et qu'il n'y a pas de transmission active dans l'école, ce n'est pas indiqué de fermer les matchs interscolaires. Mais par prudence, si vous me permettez, je vais faire des vérifications comme telles. Mais habituellement, là, nos guides, nos orientations sont travaillées entre le milieu scolaire, le ministère de l'Éducation et nous.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour. On a vu encore 103 cas aujourd'hui dans la région de Québec. Est-ce qu'on est dans l'orange très foncé? Au-delà des couleurs, quelles seront les prochaines restrictions pour limiter la contagion à Québec?
Si vous me permettez, la restriction qu'on demande à tout le monde, partout au Québec, qu'on soit orange, jaune ou vert, c'est de diminuer les contacts sociaux de façon significative afin d'empêcher la transmission dans la communauté qui, elle, vient impacter les autres éléments. Si vous me permettez aussi, ce que je veux ajouter, c'est que si vous êtes quelqu'un qui avait des symptômes ou que vous avez été en contact avec un cas, je vous demanderais, là, de bien entendu, d'essayer de vous isoler, de ne pas exposer d'autres personnes, de porter le couvre-visage, d'aller passer un test et d'attendre des consignes de santé publique. Et avant d'avoir votre résultat, d'essayer de diminuer vos contacts pour ne pas que vous contaminiez des gens avant d'avoir vos résultats, comme les résultats ne rentrent pas de façon instantanée. Ça, c'est une autre mesure, je pense, qu'on peut mettre en place, puis de dire aux gens qui ont des symptômes, bien entendu, ou qui ont été appelés par la santé publique, de collaborer pour qu'on puisse casser cette transmission-là.
Merci.
Monsieur Arruda, vous nous parlez de la deuxième vague depuis le mois de mars. Depuis probablement le 15 mars, vous parlez déjà qu'il va y avoir une deuxième vague. Est-ce que ce qui se passe en ce moment était prévisible et est-ce que c'était inévitable?
Inévitable, je vous dirais que je pense que oui, parce que ce qu'on a à voir le comportement du virus chez nous comme ailleurs dans le monde. Là, la question, c'est quelle est l'ampleur de ce que ça va avoir. Et ça, c'est un petit peu entre nos mains. Je vous dirais que les améliorations ont été faites dans les secteurs du côté de la santé, de l'éducation. Mais, vous savez, le virus, le problème, c'est quand il est dans la communauté, il y a plusieurs endroits où on n'a pas nécessairement le contrôle. Et c'est pour ça que je pense que c'est vécu un peu partout. Il n'y a pas de recette magique non plus. Puis il n'y a pas rien d'exportable nécessairement d'un territoire à l'autre. Ça dépend de l'épidémie.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle.
Monsieur le ministre Dubé, Monsieur Arruda. Monsieur Dubé, vous avez sans doute entendu la protectrice du citoyen, Mme Rainfrette, aujourd'hui, qui a été très, très critique à l'égard des décisions, en fait, des recommandations qui ne sont à peu près jamais suivies par les différents gouvernements. Là. Elle a, entre autres, parlé de ce qui s'est passé le printemps dernier dans les CHSLD en disant que depuis des années, elle avait émis des recommandations, fait des rapports sur ce qui se passe, que c'était une situation qui était prévisible. Qu'est-ce que vous comptez faire des différents rapports qu'a remis Mme Rainfrette? Est-ce que ça va s'arrêter, ce pelletage en avant qu'on fait depuis des décennies, a-t-elle dit?
Ben écoutez, la première chose, moi j'ai pris rapidement connaissance, M. Lacroix, ce matin du rapport, puis je dis rapidement, là, parce que je vais prendre tout le temps qu'il faut pour le regarder, puis elle a raison sur plusieurs volets, là, c'est le laxisme des gouvernements dans leur ensemble qui explique la situation dans laquelle des gouvernements précédents. Malheureusement, puis je le dis avec beaucoup de réalisme à chaque jour, on ne peut pas tout corriger ça à l'intérieur de quelques mois. Puis ça, je pense qu'on en est tous conscients. Là, je veux qu'on se le dise, que les efforts que l'on met en ce moment... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle souligne, puis j'aimerais en profiter, là, puis je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais elle souligne aussi, je l'ai vu là, rapidement, comment le personnel de la santé a été dévoué malgré des conditions difficiles. Puis ça, je pense qu'il faut le redire à nos gens, parce qu'en ce moment, eux, ils sont vraiment sous pression quand je dis qu'on a besoin de leur donner un coup de main. Bon. Maintenant, sur toute la question du personnel, ce que j'aimerais encourager la population, parce qu'on va prendre acte, je dis, je vais prendre connaissance, mais j'ai quand même une bonne idée. J'aimerais vous dire, M. Lacroix, j'aimerais dire aux Québécois qu'on a quand même posé des gestes forts depuis qu'on est au gouvernement par rapport aux aînés. Que ce soit dans l'augmentation des soins à domicile, on a investi plus que 280 millions, puis ça, c'est des annonces qu'on avait fait et qu'on avait fait même avant la pandémie. Alors, on savait qu'il y avait un enjeu. On avait dit, par exemple, M. Lacroix, qu'on voulait augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Rappelez-vous, là, c'est dans les premiers mois, on avait mis ça clairement au début de la négociation. On savait qu'il y avait un enjeu. Dans notre programme électoral, on avait annoncé les maisons des aînés. On savait qu'il y avait des enjeux. Bon, maintenant, est-ce qu'avec la pandémie, on s'est fait prendre de court? Parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on n'a pas pu mettre en place et que là, il faut continuer à mettre en place. Alors donc, là, je ne pense pas qu'on a de grandes surprises, mais je vous dirais qu'il va falloir être capable de changer cette dynamique-là. Puis je vais vous donner un exemple, si je peux, là, sans trop rallonger. Bon, quand j'ai déposé le plan, il y a un petit peu plus qu'un mois, là, le plan pour la deuxième vague, rappelez-vous ce que j'ai dit, parce que j'ai une question à l'Assemblée nationale, puis je veux bien clarifier les choses. Quand vous me dites, vous avez raison, est-ce qu'on va continuer de renier les directives ou de ne pas s'en occuper? Bien, moi, là, quand j'ai déposé le plan, là, il y avait 9 axes, il y avait 9 éléments qu'on traitait, dont la mobilité de la main-d'œuvre, qui est, à mon sens, un des problèmes les plus importants. Mais je dois vivre on doit vivre comme gouvernement avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Je peux pas, j'aimerais ça que ça disparaisse tout d'un coup. On a réussi à le faire avec les préposés aux bénéficiaires, mais on est loin d'avoir réussi avec les infirmières puis les infirmières auxiliaires. Donc, quand j'ai déposé le plan, il y a un peu plus qu'un mois, j'ai dit la mobilité, elle va être interdite pour les préposés aux bénéficiaires parce qu'on savait qu'on allait avoir le personnel. Mais dans le cas des infirmières, dans le cas des infirmières auxiliaires, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Et là, ce qu'il faut s'assurer, et c'est ce que j'ai dit il y a un mois, puis je le redis encore aujourd'hui, parce que ce midi, pas plus tard que ce matin, à 11 heures, je parlais avec tous les PDG, puis j'ai dit, vous allez vous engager, vous allez vous engager que pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir le personnel nécessaire pour éviter de la mobilité avec les infirmières, que vous allez le faire dans un contexte qu'on appelle de protection et de contrôle des infections. Ça, ça veut dire que la journée que vous autorisez un mouvement de personnel, vous savez, on a mis en place une direction, un DG, là, une direction générale en chacun des établissements. Alors, si un mouvement de personnel qui se fait pour éviter un bris de service, le DG local va devoir l'approuver et le signer. Et si jamais ça passe d'une zone rouge à une autre, comme on a eu des cas qui nous ont été mentionnés cette semaine, bien, il va falloir que ce soit le PDG du centre qui l'autorise. Alors, je ne dis pas qu'on n'en aura pas, parce qu'on ne l'a pas, le personnel. Il faut être transparent envers la population. Je l'ai dit il y a un mois, je le vous redis aujourd'hui, il faut être transparent, on a un problème de personnel, et à chaque fois, je vous dis, aidez-nous à enlever de la pression sur le personnel, parce qu'on n'a pas les moyens. Puis à chaque fois qu'il nous manque de personnel, bien, pour éviter un bris de service, c'est-à-dire de ne pas être capable de donner le service qui soit dans tout ce qui s'appelle CHSLD, RPA, peu importe, bien, il faut faire ces choix difficiles-là. Alors, je le répète, oui, on avait un problème de suivi de directives. Je vais m'assurer, je parle au PDG à toutes les semaines avec Mme Savoie. Ils comprennent très bien le plan qu'on a mis en place il y a un mois et on le suit de très près. Notre objectif, c'est de ce qui n'arrive pas, ce qui est mentionné par la protectrice du citoyen. Fait que, je m'excuse d'avoir pris longuement, mais pour moi, ça vient me chercher. Puis je veux m'assurer que dans les prochaines semaines, tout le monde ensemble, on est là-dedans.
J'ai une autre question. Il se passe quelque chose d'assez particulier, notamment dans la région de Trois-Rivières. Il semble qu'il y ait des appels frauduleux qui sont faits à des gens qui sont victimes de la COVID dans le secteur de Trois-Rivières et ailleurs au Québec, à ce qu'on me dit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Des fraudeurs qui se font passer pour des responsables de la santé publique, qui disent aux gens malades qu'ils peuvent sortir de leur isolement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous êtes au courant de cette situation-là? Peut-être, M. Arruda?
J'ai été informé ce matin et on a tout de suite avisé les corps policiers pour identifier les éventuels téléphones. Donc, on est en train d'agir là-dessus parce que c'est... Et donc, je tiens à vous dire, si vous avez un appel et que c'est les gens s'identifient comme étant la santé publique, là, c'est une chose, mais c'est assez étonnant, je vais vous dire, qu'on vous appelle puis qu'on vous dise d'arrêter votre confinement si vous n'avez pas fait vos 10 jours après le début de vos symptômes. Donc, ça, là, faites-vous attention. Ça, c'est comme l'arnaque. Donc, je demande aux citoyens qui se font dire de se désisoler, entre guillemets, si, avant 10 jours après leur début de symptômes, là, puis qu'ils n'ont pas eu de symptômes, c'est pas adéquat.
Rien de savoir que c'est vraiment des vrais appels, parce que là, on se fait pas... C'est des gens qui appellent...
Comme je vous dis, c'est clair, ça vient pas de la santé publique. Donc, c'est clair qu'on a identifié, on a signalé la situation à la police qui va enquêter, qui va essayer de retracer d'où venaient les appels, parce qu'il y a des moyens là, électroniques de retrouver ça et corriger la situation. Mais en attendant, là, si jamais quelqu'un vous téléphone puis vous dit, tout d'un coup, c'est correct, tu peux te sortir, même si on n'a pas... avant, on vous a dit de rester 10 jours, là, oubliez ça, c'est un appel frauduleux.
Maintenant,
Faut-tu être tordu, Luc Lavoie? Faut-tu être tordu pour appeler quelqu'un qui a COVID? D'abord, tu te demandes comment est-ce que tu as su que j'avais COVID, puis tu m'appelles, puis tu me dis « Hey, écoute, finalement, là, vous êtes guéri. Vous pouvez vous sortir de votre isolement. Vous pouvez retourner travailler. » Genre, si t'as pas fini.
Je comprends pas, Bernard, parce que ils font quoi? C'est pour faire une blague? C'est-tu drôle? Est-ce que c'est drôle? Parce que je vois pas, il n'y a pas d'argent, là, ça. Quand
non,
y a de la
non,
fraude,
non.
D'habitude, il y a quelqu'un qui essaye de graisser la patte un peu.
Ouais,
mais, non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est une
ben
joke.
Là, je ne sais pas. On ne sait pas.
Il y en a qui se trouvent drôles.
Il y en a qui se trouvent drôles. Ou encore, puis honnêtement, je le mets sur la table, mais ça m'écœure de le dire. Ou encore, tu en as qui, par conviction personnelle, veulent bousiller le système de sécurité qu'on met en place pour essayer de freiner la contagion. Ils veulent, en d'autres mots, que le virus se promène.
C'est monsieur.
Non, mais...
Je comprends ce que tu dis, Bernard, mais c'est
j'ai commencé peurant. Le show avec ça, là. J'ai commencé le show oui, avec oui, ça. Tu sais, j'avais un témoignage, là, quelqu'un à qui c'est arrivé, là. Sa mère a été appelée par quelqu'un qui se présentait comme un représentant de la santé publique, puis il a dit « Vous pouvez mettre fin à votre confinement ». Puis la dame en question vit avec un homme qui a une santé très, très fragile. Puis heureusement, ils n'ont pas mis fin au confinement. La jeune femme a allumé, puis elle a fait des vérifications, elle a appelé le CIUSSS. Et puis finalement, ils l'ont rappelé pour dire « C'est un appel frauduleux. Dites à votre mère de continuer de rester en confinement, puis dites à votre père de rester loin d'elle ». Ça prend des méchants capotés,
mais,
là. C'est des méchants capotés, là.
Ce que je trouve très, très troublant,
ouais.
C'est d'où vient le fait qu'on sait que cette dame-là est en isolement.
Ah, ben ça.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens à l'interne? Est-ce que je soulève l'hypothèse, là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens à l'interne qui sont contre les mesures du gouvernement puis qui participent à ce que tu décris comme ces gens qui veulent bousiller le système?
Une forme de sabotage.
On dirait.
En tout cas, c'est une hypothèse. L'hypothèse de Joanie, à qui j'ai parlé, elle pense, elle, que c'est quelqu'un qui a eu accès aux feuilles du centre de dépistage, parce que sa mère est allée se faire tester.
Ça ressemble à des employés, ça? Ça ressemble à des employés?
C'était l'hypothèse qu'elle soulevait. Elle posait la question, elle n'était pas certaine. Mais c'était
plus.
L'hypothèse. Mais non, on peut pas. C'est pour ça que l'enquête policière est importante. On a contacté d'ailleurs la Sûreté du Québec. Et puis, effectivement, ils sont au dossier. Mais je vais te dire, c'est quand même particulier.
Bon, mais pour revenir
ouais.
au propos du ministre,
ouais.
Il y a une chose qui est, à mon avis, qui sème plus de confusion qu'autre chose. Une deuxième vague qui est très différente de la première.
Oui.
Bon. Vous voulez dire quoi par ça? Alors là, il saute immédiatement en disant, ben c'est parce que là, on en est à la propagation communautaire.
C'est ça.
Ouais. Ben, je suis pas sûr que ça a du bon sens, cette affaire-là, Bernard. Qu'au début, les vecteurs du virus aient été des voyageurs qui revenaient ici et qui l'ont attrapé ailleurs.
Oui.
Soit. Très bien.
Mm-hmm.
Mais quand on était rendu au début juin, là, ça pouvait plus être ça. C'est quoi la différence entre, s'il m'expliquait ça au moins, c'est quoi la différence entre le début du mois de juin puis maintenant? Parce qu'au début du mois de juin, c'était clair qu'on appelait ça la première vague. Là, on nous dit la deuxième va être...
Elle a commencé,
puis elle pourrait être pire, mais elle va certainement être différente. En quoi est-elle différente?
Ben,
je suis pas sûr que je comprends. Moi, est-ce que tu comprends, toi?
Ben, moi, mon hypothèse, là, puis on n'est pas expert ni toi ni moi, mais on baigne là-dedans.
On essaie de faire comprendre à nos auditeurs comme nous, on essaie de comprendre.
C'est ça, exact. Puis on baigne là-dedans là, à journée longue, fait qu'à un moment donné, on finit par se faire une tête. Moi, ce que je comprends, là, grosso modo, là, c'est que la première vague, là, ça a été beaucoup des résidents de CHSLD et du personnel de la santé qui ont contribué à la propagation. C'est-à-dire, dans un CHSLD, tu avais des gens malades qui en contaminaient d'autres qui étaient malades. Tu avais aussi du personnel de la santé qui se promenait d'un établissement à l'autre puis qui ont contribué à la propagation. Dans ce cas-ci, jusqu'à maintenant, ça se passe ailleurs. Ça se passe beaucoup dans les parties de famille, les parties d'amis. Et ça se passe aussi. Et ça se passe aussi dans les écoles. C'est en ce sens-là que c'est communautaire. Tu comprends?
Ouais, je comprends ce bout-là, mais le confinement... du mois de mars à avril, mai, juin, là. Ce confinement-là, il n'y en avait pas d'activité communautaire de ce type parce que les bars étaient fermés, puis bon, il y avait peut-être des fêtes familiales.
Puis les écoles ont été fermées.
À mon souvenir, Bernard, tous les gens que je connais pendant la première vague ont été très stricts dans l'application des mesures sanitaires, je pense. Alors là...
On l'est moins, Luc. C'est ça qui
on
nous...
l'est moins, c'est
clair
ça qu'on
nous
l'est
a dit.
Moins.
C'est ça qui nous a dit. Le message d'aujourd'hui, là... Ils nous l'ont répété trois fois plutôt qu'une, c'est éviter les contacts sociaux puis arrêter les rassemblements à la maison. Arrêtez ça.
Ouais.
C'est ça le message du jour. Tu comprends?
Je comprends, sauf que le restaurant est ouvert.
Mais c'est ça, il y a un paquet de monde qui...
Quand je vais manger au restaurant avec quelqu'un, je veux dire, je suis en contact social.
Ben oui, puis il y a un paquet de monde qui m'écrivent, si tu savais comment le monde... D'ailleurs, c'est très...
Je vais prendre une bière dans un pub, là.
Je commence à sentir l'exaspération, je vais dire, là, c'est la première...
Mais c'est parce que c'est incompréhensible.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, qui sont tannés, là, ils n'en peuvent plus. Puis il y en a beaucoup qui m'écrivent pour dire, ils nous demandent de rester chez nous, mais ils gardent les bars ouverts.
C'est en plein ça. J'en veux pas aux tenanciers de bars puis aux propriétaires de restaurants. Mmh. Au contraire, ils ont souffert plus que n'importe qui. Mmh. Mais le fait est que si tu veux restreindre les contacts sociaux, coupe les places où il y en a. Ouais. Et là, il nous dit, ben c'est pas ça vraiment le vecteur. Le vecteur, c'est plus les parties familiaux, les parties entre amis, les barbecues, tout ça.
Moi, ce que je comprends, là...
Je trouve ça étrange.
Moi, ce que je comprends, là, puis c'est pas personne du gouvernement qui me l'a dit, mais il y a toujours bien une raison pour laquelle il ferme pas les maudits bars. Puis ce que je comprends, c'est qu'ils craignent que s'ils ferment, les parties dans les maisons vont augmenter d'autant. Puis ils pensent que c'est plus compliqué encore de contrôler ça dans les maisons que ça l'est dans les bars. Parce que dans les bars, au moins, tu peux faire une opération comme la semaine passée, t'envoies des policiers, tandis que dans les maisons, on le sait, c'est compliqué, ça prend un mandat, etc., etc. C'est, à mon avis, la raison pour laquelle ils gardent les bars ouverts.
Mais ça a plein de bon sens ce que tu dis là, mais qu'ils nous le disent clairement.
Ouais, ça, je ne sais pas pourquoi ils ne nous le disent pas. Je sais pas
parce pourquoi. Que moi, je suis pas mal sûr, Bernard, que... Ce que j'exprime est partagé par beaucoup, beaucoup de gens.
Ah, je te le laisse.
Tu dis, coupe tes contacts sociaux. OK? Hier soir, quelqu'un me disait, viens, on va aller regarder le match de hockey au restaurant. Ben, je coupe-tu mes contacts sociaux? Oui ou non?
J'y vas-tu au resto ou j'y vas pas?
Bon. J'y vas-tu ou j'y vas pas?
Ouais, c'est ça.
En d'autres mots, le ministre, ce qu'il dit, c'est, allez-y pas, mon laisse ouvert. Fait qu'il fasse faillite. Je comprends pas. Je suis pas.
Ouais, c'est une bonne question. On va, sais-tu quoi, Luc? Moi, je vais demander à Maryse ou à Alexandra là, d'envoyer un petit texto chez M. Dubé, là, puis on va essayer d'avoir une réponse. Pourquoi est-ce qu'il garde les bars ouverts? On va essayer d'avoir une réponse. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, dès qu'on en aura une. Je te salue, je te reparle un peu plus tard, mon cher Luc Lavoie, parce qu'après la pause, c'est la protectrice du citoyen qui s'en vient nous parler de son rapport dévastateur d'aujourd'hui. Un autre rapport. Et puis lui aussi, c'est pas beau.